Et il est né le Divine Enfant, une idée dans les cartons depuis presque 20 ans, un projet lancé finalement en 2006, un coût de construction passé aussi de 200 à 386 millions d'euros, des imbroglios politiques, artistiques à n'en plus finir, c'est clair. Hein. La gestation de la Philharmonie de Paris, ça a été un peu long, un peu difficile, voire des fois un peu catastrophique, mais la semaine dernière tout ça a été presque oublié, depuis plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà assisté à des concerts, la Philharmonie a même dû refuser des visiteurs qui n'auront vu donc que l'extérieur du bâtiment, dessiné par Jean Nouvel. Alors maintenant que le navire est lancé, à la matinale on va faire un peu la partie bilan et prospective avec vous, Emmanuel André, bonsoir.
Bonsoir.
Alors bonsoir, vous êtes chargé de programmation à la Philharmonie de Paris, merci d'être avec nous. Alors François, tu viens d'arriver aussi dans ce studio.
Bonsoir, bonsoir Martin.
Toi, ça va ?
Très bien Martin.
François, tu fais partie de la rédaction de Radio Campus, tu avais déjà visité le chantier de la Philharmonie en novembre, du coup, maintenant que l'inauguration est passée, tu as quelques questions pour notre invité.
J'en garde un excellent souvenir, Philippe Romassal, attaché de presse.
Déjà, je suis soulagé, c'est super.
M'avait emmené à 37 mètres de hauteur, m'avait fait porter les chaussures et le casque jaune, donc j'ai un très bon souvenir. Quelques questions. Vous proposez une programmation musicale assez riche, moins de classiques et plus de musique actuelle, du jazz, du hip-hop. Et un article de Libération.fr du 16 janvier l'a décrit pourtant ainsi. La programmation semble redoubler celle de l'excité de la musique en se recentrant sur une politique culturelle populiste du « il faut donner aux gens ce qu'ils veulent entendre » plutôt que ce qu'ils pourraient découvrir. Que répondez-vous à ça ?
Ça, c'est gentil comme introduction. D'abord, je veux saluer nos amis de Libération. Ils ont été ravis de découvrir le projet, la Philharmonie.
Oui, ils en disent pas que du mal, mais c'est vrai que nous, on s'est demandé...
Non, on est d'accord. Ok, je réponds. Ça m'intéresse comme question. D'abord parce que on refuse, enfin je dis on, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent, on refuse certains clichés. La musique classique pour les plus vieux ou les enfants qui n'ont pas trop le choix, les musiques actuelles où soi-disant on vient en bande de copains mais on arrête de la fréquenter et puis on n'a pas d'argent.
D'accord.
Et c'est du divertissement, ça s'opposerait aux musiques dites savantes qui s'écriraient, qui seraient de la haute culture. Bon, tout ça, on essaye de le laisser à côté et c'est vrai que sur ce plan-là, on est héritier de la Cité de la Musique. C'est vrai, on l'assume. La Cité de la Musique, c'était une utopie qui est née il y a 20 ans, qui consistait à dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les musiques. Dans chaque genre de musique, il y a des artistes qui sont exigeants, des musiques qui sont excitantes. Vous les avez en hip-hop, en musique classique, en musique médiévale, en musique contemporaine, etc. Dans chaque genre, vous pouvez trouver des terrains d'expression, de recherche palpitantes, quelquefois justement qui ne sont pas populaires. Ça nous intéresse de placer les meilleurs de chaque genre les uns à côté des autres. Ensuite, il y a une histoire de proportion. C'est vrai qu'on a beaucoup de résidents institutionnels qui viennent rejoindre le projet de la Philharmonie et il faut leur donner des dates, de la place, de l'air, de l'oxygène pour s'exprimer ensemble. Ça aussi, c'est une question qu'on peut développer. Qu'est-ce qu'on fait avec des musiciens qui sont ensemble ?
Mais Emmanuel André, quand vous disiez, par exemple, on veut un peu avoir les meilleurs dans chaque type de musique, etc. Par exemple, quand on a Lang Lang qui vient faire un concert, qui est ce fameux pianiste chinois, c'est ça l'idée, c'est d'avoir vraiment les pointures ? Quitte à ne pas avoir moins de découvertes, peut-être.
Lang Lang, c'est une figure internationale.
Bien sûr.
Et là, vous interrogez des critiques de musique classique qui vous disent « Non, surtout pas. J'ai vu des critiques, je ne vais pas les citer, qui n'ont pas applaudi Lang Lang après son concert. »
Ce qui est aussi très bon retour.
Il y a évidemment, pas eu que... mais il y a le côté élitiste de certains en disant « Lang Lang, c'est trop...
» c'est commercial, ça, l'idée ?
Oui, c'est international, tout le monde peut le faire, c'est un amuseur, c'est voire même un pitre sur scène. Franchement, j'ai aucun problème à voir quelqu'un qui s'amuse en jouant. Là encore, on pourrait me traiter de populiste en disant « la musique classique, c'est sérieux. Si vous commencez à vouloir sourire en jouant ou en écoutant de la musique classique, vous devenez populiste parce que vous êtes racoleur. » Pas du tout. Lang Lang est un excellent artiste. Il joue du piano comme personne. Il a une virtuosité qui rend jaloux. Je ne vais pas bouder mon plaisir quand j'écoute Lang Lang.
Donc c'est quoi que vous nous dites ? C'est quoi que vous fassiez, les puristes vont vous dire que vous ne l'êtes pas assez et les grands publics vont vous dire que vous n'êtes pas assez grand public.
Évidemment.
Vous êtes coincé entre le marteau et l'enclume ?
Si vous voulez, on essaye de tracer notre voie sans renier nos convictions. Et forcément, ça ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et on a des contraintes à gérer. On a, c'est vrai, idéalement, on aimerait équilibrer mieux les genres de musique. Et c'est vrai qu'on a une dominante classique. Mais n'oubliez pas aussi que Pleyel, que nous quittons pour faire des musiques actuelles, on ne va pas l'étouffer en programmant la moitié de notre saison avec des musiques actuelles dans une salle qui, en plus, a été conçue comme une salle symphonique et une salle acoustique pure.
Oui, dédiée à ça.
Oui, et donc tout le monde est en train de dire que c'est une salle miraculeuse, merveilleuse, qui sonne comme si on était dans un lieu magique.
Ça, c'est un des points où tout le monde est d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là.
Oui. Mais de la même manière, si on mettait trop de musique amplifiée au tout début, on casserait ce message-là. Mmh. Au début, on a fait un écrin et tout le monde est rassuré. Mais je vous assure, si vous étiez venu le lundi soir, vous êtes peut-être d'ailleurs venu le lundi soir quand, sur scène, les musiciens, pour la première fois, ont joué dans cette salle. Il y avait les acousticiens, l'architecte Jean Nouvel qui était avec nous, je le répète.
Le jour de l'inauguration ?
Non, le jour du premier essai de musique sur la scène, avec les ouvriers dans la salle, ceux qui ont construit la salle, les acousticiens. Je peux vous dire, tout le monde était blanc. Blanc, angoissé, terriblement anxieux de savoir. Évidemment, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on attend cette salle. Forcément, vous levez un voile et là, c'est le test vérité.
C'est plutôt un sacré départ. Les nombreuses dates à guichets fermés qui s'annoncent démontrent qu'il y a une vraie demande de la part des Parisiens pour un nouveau lieu dédié à la musique. Vous mettez en avant la venue d'un public jeune dans ses premiers jours. Vous aviez développé des passes. Radio Campus était partenaire, c'était des passes étudiants. Est-ce que vous pouvez en reparler de ces passes étudiants ?
Alors techniquement, je ne sais pas.
Vous mettez en avant l'idée que les jeunes sont venus. Ça, on l'a vu dans votre communication des premiers jours, ils sont là. Ça, c'est quelque chose que vous constatez ? Plus oui. que d'habitude dans du classique.
Non, mais le pass étudiant, c'est une bonne question, puis je vous réponds ensuite.
Bien sûr,
il y a des passes. C'est-à-dire, vous avez, quand vous êtes avec une carte étudiant, vous avez le droit à ce pass et vous cochez ensuite tous les concerts que vous voulez avoir. Si vous n'êtes pas étudiant, ce n'est pas non plus un problème. Il y a aussi des places à 10 euros pour tous nos concerts, y compris les plus prestigieux, y compris les quelques genres de musique que ce soit. Elles sont plus ou moins nombreuses, mais il y a des places à 10 euros dans tous les concerts. Il faut simplement se lever un petit peu tôt, surveiller les moments où on les met en vente.
C'est la rançon de la gloire. Enfin.
Exactement. Ensuite, vous parliez de la présence des jeunes. Bah, évidemment.
Plus les jeunes. Pour classique, ce n'est pas si évident aujourd'hui d'avoir ces jeunes.
Vous avez raison, c'est un effort. Parce que ce serait facile, quand on a des artistes qui coûtent cher, de vendre les places chères et de ne pas faire de place aux jeunes. Mais là encore, on tombe un peu sur un cliché. Les jeunes n'ont pas d'argent et les gens plus âgés en auraient beaucoup.
C'est pas qu'un cliché. Hein.
Oui, mais il y a une marge assez dominante.
Bien sûr.
Il y a moins de classique, de toute façon. Il y a une part de classique, mais moins importante qu'auparavant.
Oui, bien sûr. D'abord parce que ça nous intéresse. Et aussi parce que les musiques entre elles dialoguent. Si vous mettez un univers clos avec que du classique, au bout d'un moment, vous vous parlez entre vous. C'est passionnant et intéressant d'avoir des artistes de jazz, des artistes de classique, des artistes qu'on appelle musique du monde, de musique ancienne, de musique contemporaine, qui font des choses ensemble, qui sont ensemble et qui cherchent des choses quelquefois ensemble.
Dans quelques jours, vous aurez Oxmo Puccino et Ibrahim Malouf, par exemple.
C'est un très bon exemple. Exactement.
D'accord. Donc,
mais il faut des artistes ouverts en face aussi.
Les nouveaux poètes français.
Il y avait une chose que je voulais voir avec vous, c'est cette idée. Voilà, là, il y a eu vraiment beaucoup de visiteurs d'un coup qui sont venus notamment pour voir le bâtiment. C'était ça aussi l'idée d'avoir un bâtiment qui soit plus qu'un lieu, aussi une envie architecturale d'aller le voir.
Oui, et en plus parce que c'est un magnifique bâtiment, il faut avouer. Il est gigantesque, il est sur le bord du périph', donc tout le monde le voit, y compris quand on n'habite pas Paris intramuros.
C'est un des bâtiments qu'on remarque maintenant quand on passe devant dans le périph'.
Ouais, ça tout change le monde a vu ce grillage pendant des années maintenant. D'abord un trou, puis ensuite du béton, une grande masse. Ensuite du grillage, et maintenant on voit cette forme qui est recouverte, un peu futuriste, énigmatique, gigantesque. Donc forcément, ça attire.
Ils veulent en faire un lieu de vie, vraiment pour passer la journée. Je crois qu'il y a un grand parc, mais un restaurant aussi prévu tout en haut du bâtiment. Vous savez, c'est quand, le restaurant ?
Début mars.
Début mars ?
Oui, restaurant et puis brasserie au premier étage, enfin au niveau zéro quand vous rentrez. Ouais. Je reviens sur cette idée de lieu de vie. Oui, on a coutume de dire qu'à la Villette, on n'est pas un lieu de passage, c'est clair.
Vous êtes un peu sur les bords du parc.
On est sur le bord du parc, mais on est plutôt un lieu de destination. Donc quand vous allez dans un lieu comme le nôtre, le parc, c'est plutôt un moment du week-end, sauf quand vous venez juste pour un aller-retour du concert. Mais le week-end, quand vous y venez, vous n'y venez pas forcément pour une seule chose. Vous avez envie de compléter, par exemple, concert, une visite d'expo, essayer un atelier, vous-même, si vous avez envie de pratiquer, je ne sais pas moi, les steel drums, le violon classique. C'est un rêve que vous n'avez jamais réalisé. Ça, c'est possible. Et l'intérêt, c'est de le faire avant ou après un concert. Ou si vous êtes dans un groupe où vous partagez les goûts, bah, certains peuvent aller, je sais pas, voir l'expo Bowie et les autres vont écouter un concert de Mozart. Quelquefois, ça marche ensemble.
Un lieu complet dédié à la musique.
Oui.
D'accord. Musique, justement. On en parle.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. I can't help myself, oh, I can't help myself. I take what I want, don't make me up this souvenir. I can't help myself, boy, I can't help myself. I gather all this money, I'ma spend it by myself. Nah, I can't help myself, boy, I can't help myself. I can't help myself, nigga, I can't help myself. Nah, I can't help myself, boy, I can't help myself. I fell in love with drugs, nigga, I can't help myself. Boy, I can't help myself.
I can't help myself de Brodinski sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans la dernière partie de la matinale. Dans quelques instants, Jonathan nous parle musique, mais tout de suite on parle de la musique encore avec Philharmonie de Paris, son programmateur Emmanuel André, et avec toi aussi François. Dis-nous, tu avais des questions à poser. Je t'en sentais trépigner derrière ton micro.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors forcément, la philharmonie, avec la philharmonie, rien n'est jamais simple, monsieur André. Même après l'inauguration, Jean Nouvel, l'architecte emblématique du projet, a refusé de venir à l'inauguration des lieux. C'était mercredi dernier. Il a évoqué sur lemonde.fr un mépris pour son travail et une sortie prématurée.
Vous en pensez quoi, ça ?
C'est pas des mots très gentils.
Dans le micro.
Il y a un malaise.
Je veux dire qu'on est vraiment solidaire de sa position sur le regret que nous avons tous d'avoir une salle qui doit ouvrir, mais qui ouvre alors qu'elle n'est pas parachevée. Donc c'est sûr que dans les semaines...
Il reste encore des choses à terminer.
Sûr, oui, bien sûr. Enfin, ça ne va pas
de
soi. La
peinture sèche encore.
Le choix était soit nous différons et nous reportons l'ouverture dans 6 mois, soit nous terminons les travaux pendant l'exploitation de la salle.
Et une chose un peu plus embêtante, c'est hier dans le Canard Enchaîné, qui rapporte le contenu de plusieurs lettres adressées par donc Jean Nouvel à Patrice Januel, le directeur général de la Philharmonie. Et Jean Nouvel évoque des risques de court-circuit, d'incendie, des risques concernant le toit, des risques de chute d'objets. Ça, c'est pas très rassurant quand même.
Vous avez lu le papier jusqu'à la fin, je pense.
Effectivement.
Oui, donc il est bien précisé que la commission de sécurité est passée. Et il y a deux petites lignes qui prêtent la parole quand même à notre directeur, et qui précisent que la commission a tout vu et qu'elle a tout approuvé. Donc, où est le problème ?
Bon, on a une réponse, mais on a quand même un des plus grands architectes du monde qui nous dit que son bâtiment n'est pas encore sûr. C'est... Moi, vous comprenez que ça inquiète un peu les gens.
Ouais, j'ai quelquefois aussi l'impression qu'il est à court d'arguments.
Ah, peut-être, ça c'est votre avis. Je comprends.
On peut le deviner. Comment mettre en cause quand même l'avis d'une commission de sécurité ? Ce serait démontrer qu'il y a eu corruption ou dissimulation. C'est grave, et quelles en seraient les preuves ? Là, franchement, expliquez-moi.
Ça n'a pas gâché la fête ?
Non, heureusement, parce que la musique l'a emporté. Et même, je dois vous dire, je parlais tout à l'heure de ce moment où Jean Nouvel, en tant qu'architecte, a entendu les premiers sons dans cette salle, on l'a senti ému, touché. Et vraiment, on était à deux doigts de sentir ce partage et d'être sur le même bateau. Et c'était triste de voir ensuite les chemins se séparer quelques jours après. Je comprends, en fait, de voir que l'identité de sa salle n'est pas encore révélée exactement comme il l'a pressentie et comme nous voulons la réaliser.
C'est ça, il voudrait rendre la chose la plus parfaite possible et il a l'impression d'avoir été un peu pressé, peut-être.
Oui, bien sûr. Et nous aussi, on a le même but. Sauf qu'on a un contrat de confiance à honorer par rapport aux artistes, au public et aux tutelles. On peut différer une ouverture 6 mois, 1 an, 2 ans, pourquoi pas, pour avoir la salle la plus parfaite possible, mais tout ça, ça a un coût aussi. On a déjà parlé du coût important de cette salle
des
dans
travaux,
une période
etc.
de crise. François Hollande, Anne Hidalgo, lors des discours inauguraux, en ont parlé et ont redit que c'était vraiment très important d'investir dans la culture.
Emmanuel André, puisque le temps passe, une dernière question. L'inauguration est faite, il y a des polémiques, etc. Mais c'est lancé. Maintenant, vers quoi on se tourne là, lorsqu'on est programmateur comme vous ?
Il faut lui trouver son rythme, il faut lui trouver son battement de cœur. Et ça, c'est très important. Avoir une sorte de vie de semaine et de vie de week-end. Pour nous, l'idéal du week-end à la Philharmonie, c'est comme des festivals, comme des folles journées, où ça déborde de partout, où tout le monde est heureux. C'est ce qu'on a senti dans les portes ouvertes, c'était gratuit. Maintenant, on va passer à des formes plus construites, évidemment payantes, mais où chacun va trouver ses marques, avec des enfants, avec des parents, avec des grands-parents, avec des amis, avec des copains. L'hiver, l'été, tout ça, ça va vivre. Et ça, c'est très très important que ce lieu qui est magnifique vive aussi avec des êtres humains.
Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel André, programmateur de la Philharmonie, d'être venu nous voir dans la matinale de 19h. La Philharmonie, c'est au parc de la Villette. Allez voir, superbe bâtiment, belle programmation. Rendez-vous sur le site d'ailleurs philharmoniedeparis.fr. Tout de suite, place au conseil musique de Jonathan.